BFM Business, Focus Retail. Eva Jaco.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Focus Retail sur BFM Business, votre émission qui décrypte les tendances et les dernières innovations du secteur. Et aujourd'hui, focus sur les marques de joaillerie qui bousculent les codes. Comment une nouvelle génération d'entrepreneurs modernise le luxe et le bijou? Gemio, pionnier justement de la vente de joaillerie en ligne, fête cette année ses 15 ans entre ouverture de boutiques et création de nouveaux marchés. Où en est cette marque? Eh bien, c'est sa fondatrice et directrice artistique Pauline Legnaud qui viendra nous expliquer tout ça en plateau. Et puis alors que le diamant de synthèse s'impose de plus en plus en joaillerie, certaines marques choisissent d'en faire un véritable manifeste. C'est le cas d'Audace qui mise justement sur une joaillerie plus accessible, plus responsable et puis pensée pour une nouvelle génération. On recevra pour en parler sa cofondatrice Manon Lagnier. Focus Retail, c'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pauline Legnaud. Bonjour, bienvenue sur BFM Business. Vous êtes la cofondatrice de Gemio que vous avez fondée avec votre mari. Vous êtes aussi sa directrice artistique. À mes côtés cette semaine, notre expert retail, c'est vous, Claire Koraleski. Vous êtes directrice générale de Media Performance. Bonjour Claire. Alors, maison de joaillerie indépendante depuis 2011, eh bien Gemio fête ses 15 ans. Ça y est, hein, vous y êtes. Pionnier du smart luxury, présent exclusivement en ligne à ses débuts. On peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez bousculé les codes de la joaillerie française. Aujourd'hui, d'ailleurs, la dépendance au e-commerce n'est plus ce qu'elle était. Vous réalisez 15% de votre chiffre d'affaires en ligne, 15% en boutique. Et les 20% restants, eh bien, c'est via un parcours hybride. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Pauline?
Alors, en effet, on est vraiment sur quelque chose de très omnicanal et c'est assez unique dans le monde de la joaillerie. Il faut se dire que quand on est sur des paniers moyens élevés, comme c'est le cas chez nous, traditionnellement, on imagine de la boutique. Gemio est né digital et en 2015, on a ouvert notre première boutique, donc 5 ans quand même, 4-5 ans après la fondation de l'entreprise. Et on s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a des clients qui ne choisissent que le digital. Et parfois sur des achats qui sont très importants, sur des pièces parfois même à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, ils vont vraiment uniquement passer commande en ligne. Et d'autres personnes préfèrent avoir vraiment un passage en boutique. Et donc, on s'est vraiment spécialisé dans un accueil très particulier. On pourra peut-être en parler un petit peu plus en détail, puisque nous avons maintenant 10 boutiques, dont 2 à Paris. Et on a ensuite une frange de la population qui choisit les deux, finalement. Et on leur laisse ce choix chez Gemio, c'est-à-dire la possibilité de flâner sur le site, puis de venir en boutique et enfin de passer commande s'ils le souhaitent, soit online, soit sur le site. Et donc, dans notre cas, en réalité, le digital au sens large représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, avec, on va dire, 50-60% du chiffre d'affaires avec donc le passage en boutique, et le 100% online est plutôt à peu près à 30-40% du chiffre d'affaires en fonction des pays.
Alors justement, aujourd'hui, vous le dites, hein, vous avez 10 boutiques, dont 6 points de vente en France. Donc vous avez un flagship à Paris. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier, et notamment dans l'expérience client, eh bien des maisons de joaillerie classiques? Qu'est-ce que finalement l'expérience Gemio en boutique?
Je dirais que la différenciation n'est pas trop un problème pour nous, parce qu'on est né fondamentalement différent. On est né il y a 15 ans maintenant, quand je me suis fiancée, que j'ai été en réalité dans énormément de marques que j'ai trouvées très belles, mais j'ai aussi été un petit peu déstabilisée, déçue par l'expérience, parce que à la fois je trouvais que la joaillerie était très belle et je trouvais que c'était parfois pas très chaleureux. Je trouvais que ça manquait d'une approche personnalisée. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment parti de ce constat client en réalité et de se dire on a envie de réinventer l'expérience. Premièrement, quand vous venez en boutique, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas sur une artère passante, parce que normalement la joaillerie, elle s'adresse beaucoup à des touristes en réalité qui vont acheter par achat d'impulsion ou pour avoir un souvenir d'un voyage, par exemple. Dans notre cas, c'est ce qu'on appelle de la joaillerie d'intention, c'est-à-dire que nos clients ont une envie qui mature pendant assez longtemps pour un moment de vie important. Donc ça va être, par exemple, des fiançailles, un anniversaire de mariage, une naissance. Et une fois que le projet est là, là, ils vont prendre rendez-vous. C'est pas obligatoire, mais souvent, ils le font. Et ensuite, ils vont passer un moment en boutique avec nous qui est beaucoup plus long. Et donc, en fait, la boutique, ça va être des salons où on va vous recevoir et vous allez être très bien accueillis, un peu comme si vous étiez chez un ami qui va vous conseiller réellement sur le meilleur choix pour vous. Et en ça, c'est assez différent.
Oui, parce que justement, quand on voit des images des boutiques, on a l'impression d'être un peu dans un appartement parisien.
Exactement.
C'est-à-dire qu'au niveau aussi des bijoux qui sont exposés, est-ce que vous avez des bijoux exposés justement?
Alors, c'est vrai que ça fait partie, je vous disais, on n'a pas trop de problèmes pour se différencier. Ça fait partie de la particularité. On n'a pas de stock dans nos boutiques. Nous avons des pièces de démonstration. Donc, vous allez pouvoir voir, bien sûr, les modèles que vous avez appréciés, par exemple, sur le site internet. Mais en réalité, vous n'avez pas de stock. Donc, vous n'avez pas tous les bijoux dans toutes les tailles de doigts, dans toutes les pierres. Parce que l'une de nos autres particularités et différenciations, c'est qu'on qu'on propose beaucoup de pierres différentes. On est vraiment devenu une adresse incontournable des pierres de couleur, le saphir vert, le saphir bleu gris, des pierres que vous n'allez pas trouver ailleurs et pourtant qui sont magnifiques. Et donc, si vous voulez avoir un bijou réellement qui soit le vôtre, qui soit unique, qui soit le symbole d'un moment de votre vie, eh bien, vous allez pouvoir venir choisir un modèle qui vous plaît et ensuite, on le fabrique à la commande pour nos clients en choisissant la pierre, le métal qui vous convient.
On ne peut pas repartir avec un bijou directement.
Il faut que ça passe. On a un petit temps d'attente. Ça fait partie du petit compromis d'avoir un petit délai de 3 semaines, 4 semaines en fonction des cas.
Claire. Oui, alors la personnalisation en ligne, en plus sur des produits à forte valeur quand même pour un achat online, comment on réussit justement à avoir une belle expérience de personnalisation online ?
Alors, ça passe beaucoup par la création de contenu. On passe énormément de temps à créer vraiment les photos, les vidéos qui vont rendre à la fois le plus désirable, mais aussi le plus réel nos produits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a encore quasiment la moitié de nos clients qui passent commande en ligne. Et donc, on a besoin de s'assurer que, bien sûr, le produit est conforme, si vous voulez, à la réalité qu'ils vont recevoir. Et donc, on passe beaucoup de temps avec notre équipe. On a d'ailleurs un studio de création en interne chez Gemio pour produire énormément de contenu. Et donc, si vous allez sur le site, beaucoup de clients nous disent qu'on a le plus beau site internet, et je trouve que c'est le plus beau aussi, pour de la joaillerie, parce que vraiment on va quasiment avoir l'impression de pouvoir toucher le bijou. Vous savez, des personnes qui passent commande en ligne, c'est parfois des personnes qui travaillent énormément. Je pense peut-être des auditeurs justement de BFM qui n'ont pas le temps, mais qui ont quand même envie d'avoir un bel achat, fabriqué en France, une belle pièce avec une histoire. Et donc c'est ce qu'on va leur proposer. C'est pour ça qu'on a besoin d'être très exigeant sur la création de contenu sur le site internet. Puis au-delà de ça, vous avez le chat qui est disponible quasiment en permanence. Vous avez bien sûr le téléphone, vous avez les emails. Donc on se met quand même au service de nos clients qui sont à distance. On fait même des rendez-vous à distance aussi pour montrer par exemple au travers d'une vidéo qui est faite en temps réel si vous voulez en live avec nos clients, on leur montre les produits si jamais ils ne peuvent pas se déplacer en boutique.
Donc on arrive à vendre des produits chers en ligne.
À des produits chers, on a même déjà eu des pièces, notre corps pour tout vous dire est entre 60 et 70 000 euros, 100%
Acheté en ligne. Et votre panier moyen il est autour de combien?
Le panier, en fait le cœur de gamme si vous voulez est pour les bijoux les moins onéreux autour de 1500 euros pour des premiers achats et ça va monter jusqu'à 10, 15 000, 20 000 euros, donc avec un cœur de gamme autour de entre 3 000 et 10 000 euros à peu près. Donc vraiment sur de la joaillerie fine, une fois de plus, qui est fabriquée en France avec de très belles pierres. On travaille dans des ateliers qui travaillent pour beaucoup d'autres noms, notamment des noms de la place Vendôme, et on fabrique à la commande d'une manière artisanale. Donc en fait, on est vraiment sur de l'exigence et de la qualité, mais en même temps avec une distribution qui est beaucoup plus innovante.
Alors c'est vrai que vous nous parlez de cette omniprésence pour le consommateur, pour le ou la cliente. En 15 ans, qu'est-ce que vous avez justement noté, constaté de l'évolution de la manière d'acheter ?
Finalement, vous savez, ça n'a pas changé tant que ça. Je dirais que principalement, les gens ont envie font beaucoup de recherches et ont envie d'avoir énormément d'informations. Et c'est pour ça, on en parlait. Je pense que la création de contenu à la fois textuel, éditorial, et on a là aussi une équipe, mais aussi donc visuel. En fait, les gens ont élevé leur niveau d'exigence. Il y a quelques années, quand on créait un site internet, franchement, il y avait 3 photos. Et d'ailleurs, les gens n'achetaient pas tellement en ligne. Maintenant, les gens sont beaucoup plus habitués à acheter parfois sur des paniers moyens élevés, ne serait-ce que parce que quand ils commandent des voyages en ligne, par exemple, ils vont l'acheter d'une manière digital. Mais c'est vrai que je pense que cette barrière-là, en fait, elle a sauté puisque maintenant on est plus habitué. Maintenant, on a quand même besoin de fournir des efforts en tant que marque pour tout simplement faire voir, et c'est un service pour moi, à nos clients, la réalité de nos produits.
Alors, vous nous parlez effectivement de création de contenu. Il faut dire que, Pauline, vous cumulez plusieurs casquettes. Vous n'y êtes pas pour rien au succès de Gemio puisque vous, vous n'êtes pas l'égérie, mais vous portez quand même la marque. Vous êtes podcasteuse, vous êtes entrepreneuse. Justement, comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça ?
Je pense que quand on est passionné, qu'on travaille beaucoup, on prend le temps. Moi, vous savez, ma boîte, j'y pense en permanence. Même si parfois je ne suis pas au bureau, en réalité, j'y pense. Et je me dis en permanence comment on peut se réinventer, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Je pense que le succès de Gemio est aussi effectivement un succès entrepreneurial, au sens où, avec mon mari, puisque l'entreprise, on l'a créée à deux suite à cette demande en mariage, c'est un peu notre bébé, c'est bête à dire, mais on le chérit, on a envie de le porter le plus loin possible. On pense d'ailleurs qu'on en est qu'au début.
Ah oui, alors justement, c'est intéressant. Vous me faites la transition parfaite pour parler de l'international qui prend de plus en plus d'ampleur chez vous, puisque vous avez 3 points de vente en dehors de la France, Bruxelles, Genève, Tokyo que vous avez ouvert en 2024. Le Japon, c'est le pays du luxe discret. C'était un pari. 2 ans après, c'est quoi le constat ?
C'était un pari, clairement, quand on l'a fait. Les personnes autour de nous nous ont dit « vous êtes fous ». D'autant plus qu'on l'a fait seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas passé par un agent local. On a décidé de trouver notre architecte, de faire notre boutique. Enfin, vraiment, on l'a fait à notre manière, avec beaucoup de sincérité. Et ça a été honnêtement un énorme succès. Et aujourd'hui, au bout d'un an, je peux vous le dire, dès la première année, on a quand même réussi à faire 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ça reste encore un petit marché pour nous. Mais malgré tout, si vous voulez, c'est quand même un vrai succès. Pour moi, surtout, c'est une validation. Mmh. C'est une validation que notre modèle fonctionne
partout,
à l'international. C'est-à-dire que notre vision avec mon mari, qui était de créer cette joaillerie d'intention, de la joaillerie avec du sens, où les bijoux sont des symboles, où on accepte pour avoir des prix respectueux, pour avoir plus de choix, d'avoir un petit temps d'attente, puisque c'est ça le compromis en substance, et bien ça fonctionne aussi à l'international.
Justement, qu'est-ce que vous regardez comme marché prochainement pour les années à venir? Est-ce que vous êtes intéressé par le Moyen-Orient, par exemple?
Alors, on est intéressé par beaucoup de marchés. En réalité, c'est un travail qui est en cours. Donc, je ne peux pas vous donner de détails puisque nous n'avons pas encore totalement décidé. Mais clairement, l'international va faire partie des prochaines années de Gémio. Et d'ailleurs, pour moi, c'est formidable. J'ai toujours adoré voyager. Je pense que c'est une source d'inspiration inépuisable. Et puis, je trouve que c'est vraiment un nouveau pas dans l'histoire de notre marque. Je pense qu'il va falloir être vigilant parce que la France nous porte. La France est aujourd'hui encore 80% de notre chiffre d'affaires. La France est un marché, en plus, qui est cœur dans le monde du luxe. Donc, je pense qu'il faudra bien sûr qu'on soit très très vigilant à rester en fait toujours aussi exigeant pour la clientèle française.
Vous qui habitez en Suisse d'ailleurs, Pauline, donc si on comprend bien, s'il y a ouverture dans les années à venir, ce sera plutôt à l'international.
Ça sera un peu des deux. Il y aura certainement peut-être des ouvertures aussi encore en France, dans quelques zones que nous n'avons peut-être pas encore ouvertes, mais pour l'instant c'est pas encore décidé.
Claire. Alors j'ai entendu dire que vous testez, alors je ne sais pas si c'est testé, mais vous existez de façon très éphémère aussi dans des lieux en province. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cette présence?
C'est une bonne question parce que c'est vrai que malheureusement, vous savez, le coût d'ouvrir une boutique, c'est quand même très important. Quand on veut avoir un beau lieu, vous l'avez dit, c'est magnifique. Enfin, on essaie d'avoir de très beaux salons, honnêtement. Et donc, le fait d'ouvrir dans toutes les villes de France et de Navarre n'est pas possible, et même à l'international. Et on n'aurait pas envie, par ailleurs. On a la chance d'avoir des personnes qui viennent à nous, parce que je pense qu'ils apprécient nos produits, qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs. D'ailleurs, je le précise qu'aujourd'hui, Gémio n'est distribué qu'en propre, c'est-à-dire que nous n'avons pas de wholesale, et ça, c'est quelque chose d'unique. Mmh. C'est aussi ce qui nous permet de proposer ces prix aussi respectueux pour la qualité qui est proposée. Et donc, pour revenir à votre question, en réalité, on se dit, mais on peut aller à nos clients, on n'est pas obligé d'y être tout le temps. Et donc, on va louer une très belle suite dans un hôtel, par exemple, le temps d'un week-end, annoncer au préalable à nos clients via notre newsletter, nos réseaux sociaux, qu'on va être sur place, et donc les inciter à prendre rendez-vous. Et ce qu'on appelle ces escapades sont 100% pleines. Et c'est génial, parce qu'on va à Lille, on va à Strasbourg, on va à Rennes, on va à Amsterdam, enfin, on va un peu partout. Et je trouve que c'est une merveilleuse manière d'aller à la rencontre de nos clients, pour rester vraiment au plus près de ses clients.
Alors tout à l'heure, Pauline, vous nous parliez de vos pierres précieuses de couleurs que vous déclinez finalement en fonction de vos modèles iconiques. J'ai une question sur finalement ce qui fonctionne le mieux chez vous, c'est les fiançailles, les demandes en mariage, les alliances peut-être aussi. Aujourd'hui, c'est toujours le cas ou est-ce que vous arrivez à ouvrir avec d'autres?
Bien sûr. Alors l'histoire fondatrice de la maison, bien sûr, c'est une histoire de fiançailles, donc je ne vais pas vous mentir, les fiançailles restent très importantes pour nous, mais on a énormément d'autres occasions dans la vie. Ce que j'adore, c'est par exemple l'occasion des victoires personnelles. Beaucoup de femmes, par exemple, ça peut être des hommes aussi, mais beaucoup de femmes qui s'offrent un bijou quand elles changent de job, quand elles ont une promotion, quand elles ont réussi à franchir un cap de quelque chose qui leur faisait peur. J'adore typiquement ce genre de symbole, parce que pour moi, c'est vraiment ça, un bijou. C'est un symbole qui est gravé dans l'or et dans les pierres qu'on va garder toute sa vie, voire pouvoir transmettre. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. C'est vraiment une émotion, en fait, quand on achète un bijou. Donc, ça va être ces victoires personnelles, ça peut être des anniversaires importants, un 40 ans, un 50 ans, etc. Et puis aussi, bien sûr, des symboles d'amour. On a aussi beaucoup d'hommes, et je trouve ça très beau, franchement, de le voir, qui sont très généreux et qui ont envie de faire plaisir. Et malgré tout, quand on voit un bijou et quand on voit non seulement à quel point il est beau, mais à quel point il a une préciosité, c'est vrai que ça fait quelque chose en tant que femme quand on le reçoit, et je pense que beaucoup d'hommes s'en rendent compte et donc continuent à offrir des bijoux par amour.
On n'a plus beaucoup de temps, mais j'avais quand même une question d'ordre d'actualité quand même. Avec le conflit au Moyen-Orient, on a vu que les consommateurs faisaient des arbitrages. Alors c'est le cas notamment dans l'alimentaire, dans la mode aussi. C'est le cas chez vous ?
Comme on est sur une clientèle qui est quand même ce qu'on va appeler affluent customers, donc très CSP+, je pense pas qu'ils sont réellement impactés.
Vous ressentez
en réalité,
pas de...
Donc au contraire, l'entreprise se porte très bien, on est sur des très belles croissances. Donc non, on n'a pas ce souci-là. Maintenant, en plus, on a la chance chez Gémio, vous le disiez, de proposer beaucoup de pierres. Et donc en fait, on va pas avoir que du diamant, du saphir bleu-gris, du saphir vert. Permettent aussi d'avoir quelque chose de différent, d'un peu plus unique. Et puis avec un prix aussi qui est intéressant parce que qui est souvent un petit peu moins onéreux que du diamant.
Merci beaucoup Pauline, restez avec nous, on passe tout de suite au Focus. Alors Claire, une étude interenchères réalisée avec YouGov en février de cette année montre que le marché du bijou de seconde main change d'ailleurs complètement d'échelle. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une transformation durable du marché de la joaillerie?
Ah oui, effectivement, on peut commencer à dire que c'est une transformation profonde. Aujourd'hui, si je reprends les chiffres, donc 4 Français sur 10 ont déjà ou envisagent d'acheter un bijou en seconde main. Et quand on regarde sur la tranche de population des 18-24 ans, on monte à 8 Français sur 10. Donc on voit cette croissance du marché. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une croissance de 15% sur la prochaine décennie. Donc on projette une bonne croissance. Et on voit des grandes maisons, des grandes marques, effectivement, se mettre effectivement comme Cartier, Van Cleef, qui permet effectivement de quelque part peut-être pouvoir rentrer à la marque avec des prix inférieurs de 30 à 50% par rapport au neuf.
Alors, mais pour que ce marché explose vraiment, il faut réussir à rassurer les consommateurs quelque part. Comment est-ce que les acteurs du secteur réussissent à convaincre?
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, l'insight de la contrefaçon est présent. 31% des Français craignent cette contrefaçon et donc cherchent effectivement des garanties. Donc, on voit des nouveaux acteurs se mettre effectivement. Alors, je pourrais vous citer 58 facettes où là, ben, on a effectivement, grâce à l'IA et à un certain nombre d'outils comme Eva pour 58 facettes, des possibilités de bien vérifier la garantie effectivement du produit qui vont être mis en revente. Et puis des grandes marques ont décidé de reprendre la main, hein, comme Rolex effectivement, pour pouvoir effectivement garantir, certifier cette seconde main.
Et puis en parallèle, on voit une autre tendance émerger, celle de transformer les bijoux anciens en nouvelles pièces de joaillerie.
Alors ce qui est assez amusant, cette recréation, on a le sentiment qu'on garde un peu quand même la bague de la grand-mère et pourtant on va en fait faire refondre l'or si c'est de l'or, profiter des pierres et puis repenser complètement le bijou. Donc on a vraiment ce sentiment de garder le lien affectif tout en repensant. Donc on voit effectivement, par exemple, je pourrais vous citer 12 Paris, qui s'est mis complètement sur cette transformation des bijoux anciens. Alors, encore une fois, c'est de l'upcycling quelque part, hein, dans sa version moderne, pour complètement redesigner le bijou.
Merci beaucoup, Claire, pour votre expertise. On passe sans plus attendre au pitch de notre start-up.
Focus Retail, la start-up.
Alors, aux États-Unis, il faut savoir qu'une bague de fiançailles sur deux est créée à partir d'un diamant de synthèse. C'est une tendance qui s'accélère. Justement, Manon, vous allez nous en parler. Manon Lagny, vous êtes la cofondatrice d'Audace, qui est une maison de joaillerie créée il y a 4 ans. Votre particularité, c'est que vous ne faites que du diamant de synthèse. Ça, c'est une tendance donc en plein essor. Un point d'abord quand même sur le diamant de culture. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est?
Alors bonjour Eva, merci de me recevoir. Donc en effet, comme vous l'avez dit, ce nouveau diamant est en plein boom. Il faut savoir que c'est pas une imitation, mais c'est bien un diamant véritable et c'est ce qui nous a fascinés. Donc j'ai cofondé la maison Audace il y a 4 ans avec mon mari lorsqu'on vivait à New York et on a vraiment été fascinés par cette innovation puisque c'est un diamant véritable. Donc aujourd'hui, on est capable en fait de comprendre ce qui se passe sous terre. La formation d'un diamant, c'est purement chimique et de le recréer dans un environnement contrôlé en incubateur et d'obtenir un diamant qui, d'un point de vue physique, chimique et visuel, est identique au diamant naturel extrait de la terre.
Alors, le diamant de culture prend justement des parts de marché au diamant naturel car il est 15 à 20% moins cher. Vous m'expliquez que ça peut aller jusqu'à 50% moins cher. Comment est-ce qu'on explique cet essor?
Vous voulez dire comment expliquer la différence de prix? Tout à fait. En fait, en moyenne, si on lisse sur le bijou fini, on va être à peu près 50% moins cher si on compare par rapport à un bijou identique dans la joaillerie traditionnelle. Mais forcément, ça varie aussi selon le carat. Plus le diamant va être important et élevé, plus la différence de prix va être flagrante. Et ça s'explique notamment par la suppression des intermédiaires qui peuvent exister entre la mine et le joaillier. Nous, on court-circuite un petit peu tout le monde puisqu'on source directement auprès de nos laboratoires partenaires, ce qui nous permet d'avoir des prix plus accessibles.
Alors vous êtes née en ligne, mais vous avez ouvert quand même votre boutique il y a 1 an dans le 8e arrondissement de Paris. C'est primordial aujourd'hui d'avoir une boutique physique et notamment pour parler, pour montrer le diamant de synthèse où on peut quand même avoir quelques doutes avant d'acheter un diamant de synthèse pour le coup.
Oui, alors pour nous, ça a été essentiel. En effet, on a pu ouvrir cette première boutique qui est située à Paris, dans le 8e arrondissement de Paris, il y a seulement après 3 ans d'existence. Donc, on en est très fiers. Et c'est vrai qu'on est né 100% digital et aujourd'hui 80% de nos ventes passent par la boutique, donc ce qui est assez important. C'est vrai que dans ce secteur, nous, ce qu'on ressent en tout cas, c'est que les clients ont toujours besoin de voir, essayer d'être rassurés concernant la qualité des pierres. Et c'est vrai que nous, puisqu'on propose le diamant de laboratoire, on a un petit peu d'éducation à faire, expliquer. Il y a 4 ans, on passait énormément de temps justement à éduquer nos clients puisqu'il y avait beaucoup de méconnaissances ou de désinformations autour de ce diamant en France. Mais aujourd'hui, ça se démocratise et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que nos clients arrivent déjà renseignés et beaucoup plus avec plus de connaissances autour de ce diamant.
Alors justement, on a Pauline en plateau, donc la fondatrice de Gemio. Vous, Pauline, vous avez testé tout ce qui est or recyclé ou d'autres matériaux comme le platine. Les diamants de culture aussi, vous les avez testés. Est-ce que ça a fonctionné chez vous ?
Pas du tout. Les diamants de synthèse, c'est le terme technique légal, c'est malheureusement en fait quelque chose que nos clients ne nous demandent pas. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ne nous demandent pas parce qu'en fait, comme on le disait, nous, c'est vrai qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle de la joaillerie d'intention. Et donc, en fait, ce que nos clients vont chercher, c'est avant tout de la rareté et de l'émotion. Et sans vouloir dévaloriser le diamant de synthèse, je pense que ce qui explique son prix très bas, c'est tout simplement qu'en fait, il est fabriqué de manière illimitée. Et qu'il existe d'ailleurs depuis les années 50, parce qu'en fait, à l'origine, le diamant de synthèse était fabriqué, vous savez, pour de l'industrie. Il l'est toujours d'ailleurs. Donc, en réalité, dans notre cas, c'est vrai qu'il n'y a pas cette demande. Elle est beaucoup plus présente aux États-Unis, en effet. Je pense sur des paniers moyens qui sont inférieurs ou très élevés pour avoir un très bon rapport qualité-prix. Enfin, ou en tout cas, une impression de rapport qualité-prix. Et donc, c'est vrai que nous, dans notre cas, c'est étonnant, presque, mais on a vraiment quasiment pas de demande.
Pas de demande. Claire.
Oui, alors moi, justement, quand on dit que c'est moins cher, du coup, le panier moyen de vos clients, c'est plutôt de se dire je ne pouvais pas me le payer, je me paye un petit diamant, ou à l'inverse, à prix équivalent, je vais du coup passer un beaucoup plus gros diamant que la normale.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué en effet que nos clients viennent à nous en ayant déjà un budget en tête. Et en fait, ils ne vont pas baisser leur budget, mais ils vont se rendre compte qu'avec le même budget, donc nous, notre panier moyen, il est autour de 2 500-3 000 €. Donc, avec un même budget, ils vont pouvoir s'offrir un diamant qui est plus volumineux, mais pas que, aussi plus blanc, plus pur, de meilleure qualité. Tous nos diamants sont certifiés. Nous, on source exclusivement des diamants de couleur exceptionnelle et de pureté exceptionnelle. Et donc, ça leur permet vraiment d'upgrader, de s'offrir en effet quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément pu s'offrir dans la joaillerie dite traditionnelle avec un même budget.
Alors, c'est vrai que ce sont des diamants qui sont fabriqués dans des laboratoires, donc particulièrement aux États-Unis, en Chine. Oui. J'ai vu qu'en Inde aussi, c'était de plus en plus développé. Est-ce que vous pensez qu'une fabrication plus proche de l'Europe, ce serait envisageable dans les années à venir ?
Oui, on aimerait beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a que quelques puissances mondiales qui maîtrisent l'innovation parce qu'on parle du principe de rareté. Mais il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une 15aine de laboratoires dans le monde qui sont capables de cultiver des diamants de qualité joaillerie. Donc, ça reste, on est très loin d'une abondance et ça reste quand même extrêmement limité aujourd'hui. Et donc, en effet, nous, on se source principalement aux États-Unis, en Inde, des pays qui maîtrisent parfaitement l'innovation. Et on aimerait en effet qu'il y ait une production plus proche prochainement.
Alors, vous êtes lancé sur le web. Comment on se lance sur le web ? Beaucoup de contenu, les influenceurs. Comment on réussit à émerger ? Alors, en plus, on a beaucoup de choses à raconter parce qu'il faut quand même raconter la spécificité très différente par rapport au marché le plus connu en France, on va dire.
Oui, alors nous, en effet, alors un petit peu comme l'expliquait Pauline, nous aussi, en fait, on accompagne beaucoup nos clients sur des moments de vie marquants. En fait, on parle beaucoup d'amour chez Audace. Déjà, notre histoire, on a lancé la marque en couple. Et donc, tout ce qui est fiançailles, mariage, accomplissement personnel, anniversaire, voilà, on accompagne nos clients là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on aime communiquer aussi autour de ce thème. Les clients s'identifient beaucoup à la marque. On est aussi très proche de nos clients. On fait beaucoup de contenu éducatif. Forcément, ça passe énormément par les réseaux sociaux. Mais je pense en effet que les deux canaux sont étroitement liés parce que nous aussi, en fait, on nous découvre très souvent via les réseaux, via Internet. Et ensuite, derrière, il y a souvent un passage en boutique pour venir essayer pour les clients qui le peuvent. Mais du coup, les deux canaux sont vraiment étroitement liés. Pour moi, c'est essentiel à côté du digital, en effet, d'avoir un point de vente.
Donc, d'autres boutiques sont à venir ?
On aimerait, donc là on est encore tout jeune puisqu'on a 4 ans, mais en effet dans l'année on va être amené à organiser des pop-up, des événements en France et à l'étranger, pouvoir éventuellement identifier une prochaine localisation pour notre second point de vente.
Merci beaucoup Manon, on passe tout de suite à l'actu de la semaine. Ce week-end, donc, Claire, c'est la fête des mères. Et derrière cette fête familiale, eh bien, il y a aussi un enjeu économique considérable pour les enseignes.
Alors, en effet, il faut se rendre compte, aujourd'hui, la fête des mères, c'est le deuxième enjeu commercial le plus important dans l'univers, effectivement, du retail. On a les chiffres de 2025, on est à près d'1,9 milliard d'euros de dépenses pour cet événement. Donc, c'est juste derrière Noël, hein, bien évidemment, je ne l'ai pas cité. Plus de 8 Français sur 10 offrent un cadeau à leur maman, avec un budget moyen de 77 euros. Alors, les univers, hein, on va en parler, sont assez larges. Les fleurs, bien évidemment, la beauté, le bijou, mais aussi des expériences, les spas, le bien-être remontent aujourd'hui.
Alors, on pourrait penser qu'on achète un cadeau à notre mère sur Internet, mais en fait, pas du tout. On se rend vraiment en boutique.
Alors, complètement. C'est vraiment, donc, plus d'un achat sur deux, il est réalisé, donc, d'un achat, donc, on est plus que la moitié, d'un achat sur deux est réalisé en magasin physique. Alors là, on touche, alors, à quelque chose qu'on a évoqué, à l'achat émotionnel. Alors, avec une approche un peu différente par rapport à vos chiffres, mais effectivement, j'ai envie de toucher, j'ai envie d'être conseillée, parce que quelquefois, il y a aussi quand même une question de génération quand je l'offre à ma maman. Donc là, le passage en boutique sert beaucoup ces deux objectifs, d'être accompagné pour l'achat d'un achat émotionnel.
Donc on se rend compte que c'est un temps fort inéluctable pour les enseignes. Justement, est-ce que les enseignes changent leur manière de vendre? Ça se passe peut-être dans les packaging notamment?
Alors complètement. On voit vraiment émerger depuis quelques années des packages vraiment bien brandés autour de la fête des mères. On voit aussi des enseignes comme Pandora qui proposent d'inscrire des textes sur le bijou. Donc encore une fois, un petit message émotionnel pour ce moment-là. Et puis après, on voit aussi émerger des expériences qu'on va pouvoir aller vivre. Donc par exemple, Sephora s'illustre avec un pop-up store danse studio. Donc voilà, votre maman a été danseuse ou a encore quelques pas de danse. Vous allez avec votre maman faire quelques pas de danse dans studio. Donc un moment de partage dans un univers effectivement de marque.
Très intéressant. Merci beaucoup Claire pour votre expertise. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous sur cette émission spéciale Joaillerie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Et quant à moi, je vous retrouve dès lundi dans la matinale de BFM Business avec Morning Retail. Bon week-end à tous.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.